chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jacques Delarosière est avec nous à Canal Académie pour évoquer aujourd'hui, le 20 juin 2013, dans sa chronique financière sous la forme d'une conversation, le sujet des problèmes structurels de l'économie française. La France souffre-t-elle de problèmes structurels graves qui l'empêchent de sortir de la crise de 2008 et la limitent dans sa croissance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et ancien gouverneur de la Banque de France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors peut-être pouvons-nous commencer par lister tous ces problèmes structurels dont on entend beaucoup parler à la fois dans la presse et dans les débats politiques.
Tout à fait. Alors, si vous permettez, on va peut-être faire un peu comme les médecins. C'est-à-dire qu'on va parler des symptômes et puis après, on remontera aux causes et aux médications qui sont nécessaires. Alors, le premier symptôme qui est, je dirais, le plus évident de cette crise structurelle que nous traversons, c'est la dégradation de nos soldes extérieurs, la dégradation de la balance des paiements. Quand je regarde l'évolution en milliards d'euros, par exemple, de nos soldes extérieurs, de notre balance extérieure, je vois qu'au début des années 2000, nous avions un solde positif qui était de l'ordre de 40 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, nous avons un solde négatif qui est de 40 milliards, mais en négatif. C'est-à-dire que si on ajoute la position positive du début des années 2000 et la position négative de 2011-2012, on a un écart de 80 milliards. C'est ça la détérioration. En termes de pourcentage de PIB, parce que vous pouvez me dire les milliards d'euros, on ne sait pas ce que c'est, mais en pourcentage de notre produit intérieur brut, nous sommes passés d'un plus 3% d'excédent extérieur, on était un pays fortement exportateur en 99-2000, à maintenant un déficit de 2 points de PIB. Là aussi, si vous additionnez le plus 3 et le moins 2 d'aujourd'hui, vous avez 5 points de PIB de dégradation. C'est une détérioration extrêmement forte. Et quand j'analyse ce symptôme d'une manière un peu plus fine, c'est-à-dire que je regarde la partie commerce extérieur et que je néglige un instant tous les services, le tourisme, les revenus de capitaux, etc., mais que je regarde la base, si vous voulez, économie un peu réelle de ces comptes extérieurs, je m'aperçois que le solde extérieur en biens est très détérioré par rapport aux services et que les biens, c'est-à-dire le commerce proprement dit de marchandises, représentent maintenant, en 2011-2012, un déficit de l'ordre de 70 milliards d'euros. Et en termes de pourcentage de PIB, le déficit des biens représente à peu près 4% de notre PIB. Donc, la constatation de ce symptôme, c'est que depuis le début des années 2000, notre commerce extérieur s'est détérioré, on peut dire, de manière massive. Alors, quand on a une détérioration de cette ampleur de notre capacité à exporter, parce que maintenant, on importe tout ce que l'on ne peut pas exporter, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de nos entreprises. Alors, si vous me permettez, cher ami, pour en finir avec les symptômes, je vais en ajouter un qui est celui de l'industrie. Il y a un phénomène qui accompagne tout ce que je viens de vous dire et qui est celui de la désindustrialisation de l'économie française. Cette désindustrialisation est confondante. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous mettre en perspective historique l'ampleur de ce déclin industriel. L'industrie représentait à peu près 30% de la valeur ajoutée totale de notre économie en 1950. Aujourd'hui, ce chiffre de 30% n'est plus que de 13%. Côté emploi industriel, la chute est peut-être encore plus impressionnante. En 1970, l'INSEE nous expliquait que l'industrie comptait pour 42% de l'emploi total marchand. Et en 2011, cette part n'était plus que de 20%. Donc nous avons une perte de notre industrie, qui en gros est passée de 30% de notre économie à moins de 14%. Et l'hémorragie de l'emploi industriel est également extrêmement souciante. Alors, on me dira que la définition de l'industrie dans les années 50 et 60 n'était pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui. En effet, il y a eu des mutations technologiques qui font que certaines activités qui étaient classées autrefois en industrie dans les années 50-60 sont maintenant classées en service parce qu'elles sont sous-traitées par les industries à d'autres. Si l'on tient compte de cette observation qui est statistiquement valable, essayons tout de même de voir l'ampleur de la dégradation en tenant compte de ce phénomène. Si vous prenez l'évolution des 10 dernières années, qui, elle, n'est pas frappée par l'argument que je viens d'indiquer, parce que depuis 10 ans, il n'y a pas eu de mutation profonde du contenu industriel. Alors prenons donc le symptôme sur 10 ans, et n'ergotons pas sur les définitions de la composition industrielle. Alors, rapportée au produit intérieur brut, la valeur ajoutée dans la seule industrie manufacturière est passée de 14,5% en 2000 à 9,3% en 2010. Vous voyez que nous avons perdu plus de 6 points en matière industrielle, et quand vous comparez cette détérioration de 14,4 à 9,3, avec les autres pays européens sur la même période de temps, avec les mêmes définitions, vous voyez que le déclin français est beaucoup plus marqué que celui de nos autres partenaires, y compris d'ailleurs, si vous regardez l'évolution, y compris des pays comme le Portugal ou la Grèce, ou l'Espagne.
Comment expliquez-vous justement cette baisse de la part de la part industrielle de l'économie française?
Alors, c'est, cher ami, la question qu'il faut se poser. Parce que quand on fait le constat des symptômes que je viens de faire, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à exporter et que maintenant nous sommes devenus un pays importateur, essentiellement en matière de biens et de biens industriels, et quand on fait le deuxième constat qui est parallèle au premier, c'est que l'industrie a décliné dans sa part de l'économie française, ainsi que dans l'emploi de notre force de travail, on est en effet amené à se demander pourquoi. Je pense que les raisons sont nombreuses et elles sont de caractère structurel. Ce qui frappe quand on regarde les industries françaises et plus généralement les entreprises en France, c'est que leur taux de marge, c'est-à-dire ce qu'elles gagnent après avoir payé les frais fixes et ce qu'elles peuvent consacrer à l'innovation, à l'investissement, à l'acquisition d'autres entreprises, ce taux de marge diminue d'une manière saisissante depuis le début des années 2000. Nous sommes en 2013. En 2000, le taux de marge calculé en pourcentage de la valeur ajoutée de nos entreprises manufacturières était de 34%. Il est aujourd'hui de 20%. Et le taux de marge comparé des entreprises françaises par rapport aux entreprises de pays qui nous entourent. Alors, là, je dirais que c'est confondant, la comparaison. En France, donc, nous sommes autour de 20% de taux de marge,
disons 25-26% pour l'ensemble des entreprises non financières, pas seulement le manufacturier. Tout à l'heure, je vous ai donné uniquement le manufacturier, mais si on prend l'ensemble des entreprises, on est autour de 25. Les Allemands sont près de 45. L'Espagne est maintenant autour de 40 et la zone euro dans son ensemble est autour de 37-38. Et nous sommes les seuls à être, je vous dis, autour de entre 25 et 30. Alors, le taux de marge des entreprises, c'est encore un symptôme, vous me direz. C'est peut-être pas une cause, mais c'est aussi une cause. Si vous n'avez pas la marge financière suffisante pour investir, vous ne pouvez pas devenir un exportateur ou redevenir un exportateur.
Il y a donc un cercle vicieux.
Il y a un cercle vicieux. Moins vous avez de marge, moins vous pouvez jouer la carte industrielle. Et donc le fait que le taux de marge de nos entreprises industrielles a beaucoup plus chuté que le taux de marge de l'ensemble des entreprises françaises vous montre bien que c'est un problème qui joue un peu dans les deux sens en matière de désindustrialisation. Moins nous avons de marge, moins nous avons d'industrie, et moins nous avons d'industrie, moins nous avons de commerce extérieur positif.
Comment explique-t-on la chute de ces marges bénéficiaires ?
Alors, la chute de ces marges bénéficiaires s'explique de différentes manières, et là nous touchons les problèmes systémiques et de l'économie française. Alors, je vais vous donner quelques indications sur la raison pour laquelle les marges des entreprises françaises sont particulièrement faibles, comme je viens de vous le démontrer. On peut lister les raisons de différentes manières. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est le fait que l'économie française dépense plus en dépenses publiques, en charges publiques au sens général du terme, que les voisines de notre pays. Le pourcentage qui est prélevé sur la production intérieure brute annuelle et qui va aux dépenses publiques est en France de 56,8%, alors que la moyenne européenne se situe autour de 45%. Et en Allemagne, c'est nettement inférieur. Le fait que nous ayons 10 points de PIB de plus à payer pour les dépenses publiques influe bien évidemment sur le taux de marge des entreprises. Qui paye ces 10 points de plus de dépenses publiques ? C'est les contribuables français. Et dans les contribuables français, les premiers, ce sont les entreprises. Donc si vous avez une entreprise qui doit participer à 56% de dépenses publiques, alors que la voisine allemande ne participe qu'à hauteur de 44% de sa production à ces dépenses publiques, vous avez une sorte de boulet qui est accroché à nos chevilles et qui fait qu'on a du mal à participer à la course. Et c'est une course que la vie dans un monde globalisé est concurrentielle. Donc je crois que le fait qu'il y ait des charges particulièrement élevées qui pèsent sur les entreprises est quelque chose qui est important. Le gouvernement l'a d'ailleurs reconnu, puisqu'il a mis en place un système sur les prochaines années qui doit assurer une sorte de crédit d'impôt, un remboursement d'impôt très partiel, évidemment, pour les entreprises qui ont ces charges à payer. Une deuxième série de causes, me semble-t-il, et qui explique cette faiblesse des marges, c'est le coût élevé de notre main-d'œuvre. Quand vous regardez les statistiques européennes, et celles de la Banque Centrale Européenne en particulier, vous voyez que l'évolution de ce qu'on appelle les coûts unitaires de main-d'œuvre, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre pour des activités comparables en termes horaires, vous voyez que l'évolution de ces coûts a été très différente entre un pays comme la France et un pays comme l'Allemagne. Et Et donc, le fait que nous ayons perdu à peu près 5 points de compétitivité sur les 10 dernières années par rapport à l'Allemagne était un facteur explicatif de la difficulté qu'ont les entreprises françaises à redevenir industrielles. J'ai ici les chiffres. Ils sont très parlants, malheureusement. Les indicateurs complexes de compétitivité qui tiennent compte à la fois des charges sociales, du coût du travail, de l'inflation, des taux de change. Ces indicateurs qui sont calculés par la Banque Centrale Européenne montrent que de 1999 à 2010, la France a perdu par rapport à l'Allemagne 5 points de compétitivité. Et en ce qui concerne les coûts unitaires de main-d'œuvre, qui ne sont qu'un élément de la compétitivité globale, la moyenne allemande de croissance des coûts unitaires de main-d'œuvre par an, c'est 0,4% de 2001 à 2010, alors que pendant la même période et pour les mêmes valeurs, en France, l'accroissement des coûts unitaires de main-d'œuvre par an a été de 2,1%. Alors, il suffit de regarder ces chiffres pour comprendre que les entreprises françaises, non seulement ont des charges publiques plus élevées, mais ont aussi des coûts de main-d'œuvre plus élevés. J'ajouterai un troisième élément, qui est celui de la formation professionnelle. En France, nous avons une formation professionnelle qui est déficiente. L'éducation nationale ne prépare pas les jeunes à trouver des emplois rapidement et dans le secteur privé. C'est tout à fait différent en Allemagne. En Allemagne, vous avez, dès l'âge de 12, 13, 14 ans, des formations alternées en entreprise et à l'école qui préparent les jeunes à trouver un emploi dans la vie active quand ils sortent de leur cursus scolaire. Vous avez un système dans lequel, pendant 6 mois, par exemple, vous êtes dans une entreprise, entièrement investi dans l'entreprise, et vous y travaillez. Ce n'est pas simplement que vous apprenez, mais vous apprenez sur le tas, avec des professeurs qui sont dans l'entreprise. Et puis, 6 mois après, vous vous immergez dans l'école proprement dite, dans le collège. Et puis, vous recommencez. Et ce système est un système très différent du système français où tout le monde est sur la même lancée pour passer le bachot. Et puis après, ben, on se débrouillera ou on ne se débrouillera pas. Mais on ne se prépare pas tôt, vers, si vous voulez, 12, 13, 14 ans. On ne se prépare pas tôt vers la formation professionnelle. Alors, on peut être fier de notre système qui est plus égalitaire, qui est moins orientant et orientant tôt, parce qu'il, soi-disant, il donne plus de chances et d'égalité de chances. Je crois qu'en réalité, c'est un système qui est très pénalisant pour les enfants, parce que après le bachot, il les jette dans un univers qui est un univers hostile. Ils n'ont pas été préparés à cet univers. Et comme malheureusement la statistique le montre, le taux de chômage des jeunes est une des abominations, et je parle en termes très, très sereins, du système éducatif de notre pays. Alors qu'en Allemagne, nous n'avons pas de chômage, ils n'ont pas de chômage. Le chômage des jeunes est pratiquement inexistant, et c'est juste le temps de trouver un emploi. Alors qu'en France, nous avons un chômage endémique, qui représente maintenant 11% de la population active, beaucoup plus élevé pour les jeunes. Et je pense que c'est un problème, à la fois un problème de société, parce que c'est une responsabilité que nous avons, nous, adultes, vis-à-vis d'une jeunesse que nous ne préparons pas à la vie professionnelle. Et après, on peut se lamenter et de faire de beaux discours sur le chômage des jeunes. Mais si on n'a rien fait pour l'éviter, est-ce qu'on est même en droit de faire un discours sur le sujet? Donc, on participe à cette responsabilité collective. Et d'autre part, ce faisant, et on retourne à votre sujet, on pénalise l'entreprise. Parce que l'entreprise qui ne peut pas trouver sur le marché du travail, comme on dit, des jeunes qui sont formés et formés assez tôt et qui sont en quelque sorte déjà préparés à entrer dans l'entreprise et qui sont, ils sont d'ailleurs souvent déjà recrutés au moment de ces alternances, eh bien, les entreprises françaises sont pénalisées parce qu'elles ont du mal à recruter. Un des paradoxes de la situation des entreprises françaises, et n'importe quel entrepreneur vous le dira, c'est qu'ils ont énormément de mal à trouver des jeunes qui soient formés. Et donc, je pense que l'ensemble des problèmes que j'ai abordés, évidemment de manière très superficielle avec vous, explique les grands problèmes structurels de notre économie. Toutes les courbes sont malheureusement des courbes qui vont vers le bas. Je vous les montre. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée, ça descend. L'emploi industriel, ça descend. Les exportations, ça descend. Les soldes extérieurs, descendent. La part de nos exportations dans les exportations de la zone euro, ça descend. La part des exportations françaises dans les exportations de marchandises mondiales, ça descend. Et ça descend malheureusement vers des taux extrêmement faibles. Donc nous avons un vrai problème de la compétitivité de nos entreprises. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut reconnaître que ces problèmes existent et il faut essayer d'y parer. C'est pour ça que je me suis permis, dans une radio qui est une compétitrice par rapport à vous-même, cher ami, de suggérer une idée très simple avec laquelle je vais conclure. C'est que en dehors des objectifs macroéconomiques qui consistent à réduire le déficit public à moins de 3% et, si on le peut, un jour à zéro. En dehors de ces objectifs macroéconomiques qui sont absolument indispensables, moi je suis pour ajouter des objectifs microéconomiques. Et il y en a un qui est très simple et qui consiste à dire « assignons-nous la tâche » de faire remonter le taux de marge des entreprises françaises de là où il est, c'est-à-dire autour de 20-25% de valeur ajoutée, au niveau allemand. Et donnons-nous 5 ans pour faire ça. Si nous faisons ça, les entreprises qui auront à ce moment-là des taux de marge comparables à ceux de leurs concurrents allemands pourront commencer à investir. Et la clé de la solution du chômage, c'est quoi? C'est l'investissement. La clé de notre problème d'exportation, c'est quoi? C'est l'investissement. Mais pour investir, il ne faut pas se dire « Est-ce que vendredi soir, je vais passer mon objectif de liquidité et je repartirai lundi matin ?» C'est pas ça. C'est la possibilité de dégager de la marge. Et en faisant cela, c'est-à-dire qu'en se donnant comme objectif de donner aux entreprises françaises, aux entreprises moyennes, je ne parle pas des très grandes qui ont des marges parce qu'elles sont internationalisées, elles ont des chiffres d'affaires au 3/4 à l'exportation.
Sont leaders mondiales.
Oui, elles sont mondiales. Mais je prends les entreprises françaises, domestiques, moyennes, petites, moyennes un peu plus grosses, mais françaises, pas internationales. Celles-là, elles n'ont pas de marge. Elles sont vraiment acuillées. Et si vous leur disiez à celles-là, eh bien, on va se débrouiller pour que votre vie vous permette de dégager des marges comparables à celles de vos concurrents, vous verriez le paysage économique changer. Alors, évidemment, c'est compliqué, parce que derrière ce problème de l'insuffisance des marges, vous avez les problèmes de la charge des dépenses publiques, vous avez le problème de la charge des dépenses sociales, vous avez le problème de la formation professionnelle, vous avez le problème de la flexibilité salariale. Tout ça, c'est derrière. Mais c'est l'occasion, si on est un gouvernement qui est vraiment désireux de faire sortir le pays de la crise, c'est l'occasion de poser les vrais problèmes. Voilà. C'est une modeste idée qui n'aura probablement aucune espèce de répercussion, parce que tout ça, ce sont des considérations qui sont probablement trop graves et trop sérieuses pour être vraiment prises en compte. Mais enfin, ça me fait plaisir de pouvoir les discuter à Canal Académie, qui est une radio libre et de progrès. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Delarosière, et merci de nous avoir fait part de votre regard qui, sur ces problèmes, des grands problèmes structurels de l'économie française, a pointé vraiment l'accent sur la chute de ces marges de bénéficiaires des entreprises. Parce que ce n'est pas évident de hiérarchiser, justement, parmi tous ces problèmes. Et là, vous avez mis vraiment l'accent là-dessus et même proposé un objectif de solution. Alors écoutez, merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie et j'espère à bientôt.
À bientôt, monsieur.
Au revoir.
Thank you.